VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue dans notre journal. Au Mali, les combats qui ont commencé hier entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia près de Kidal dans le nord-est du pays continuent aujourd'hui. Les hostilités impliquent des hommes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA à dominante Touareg, et d'autres du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et Alliés, Gatia, qui est un mouvement de la plateforme coalition pro-gouvernementale. Les deux camps s'étaient déjà affrontés les 21 et 22 juillet dans Kidal même à l'arme lourde, puis le 30 juillet à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville. Toujours concernant le Mali, l'armée malienne a annoncé ce mercredi avoir récupéré les corps de 5 soldats portés disparus depuis une attaque lundi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. 4 corps ont été retrouvés mardi et un cinquième mercredi matin dans le secteur de Tenenkou, a affirmé à l'AFP un responsable du service de communication de l'armée malienne. À ce stade, on ne peut pas préciser la cause de la mort. Nos services examinent encore les dépouilles, a-t-il ajouté sans plus de détails. Tenenkou, à environ 90 km à l'ouest de Mopti, chef-lieu de région, est situé dans le delta intérieur du Niger. Une des sources avait attribué l'attaque de lundi au groupe djihadiste malien en sardine. Libye, 6 pays occidentaux exigent que le contrôle de toutes les installations pétrolières libyennes revienne sans réserve ni délai et sans condition préalable aux autorités légitimes du pays, à savoir le GNA, le gouvernement d'entente nationale. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont fait une déclaration en ce sens. D'après l'AFP, ces 6 pays appellent toutes les parties à s'abstenir de tout acte d'hostilité et à éviter toute action susceptible d'endommager ou de perturber les infrastructures énergétiques de la Libye. Soudan du Sud, de nouveaux affrontements opposent les forces loyalistes et les ex-rebelles dans le sud-ouest du pays, non loin des frontières de l'Ouganda et de la RDC. Le point avec Nani Talani.
Les combats entre les forces gouvernementales du président Salva Kiir et les hommes fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar ont éclaté à 2 endroits proches de la ville de Yei, à plus de 150 km au sud-ouest de Juba. Selon Stéphane Ladou, ministre de l'Information de l'État de Yei, il se déroule à Mugo, une localité au sud de Yei située le long de Kaya Highway, un axe routier important menant vers l'Ouganda et une des principales voies d'accès vers Juba depuis l'étranger. D'autres combats sont signalés à Kimba, au sud-ouest de Yei, le long d'une route menant vers la République démocratique du Congo. En dépit d'un accord de paix signé en août 2015, les armes ne se sont jamais complètement tues dans le pays. Ces dernières semaines, après les combats de Juba, d'autres accrochages ont été rapportés entre loyalistes et ex-rebelles, non loin de la capitale ou encore dans le nord.
En RCA, Jean-Francis Bozizé est finalement remis en liberté provisoire. Le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui. Il avait été arrêté le 5 août et maintenu pendant 4 jours à la SRI, la section des recherches et d'investigation de la gendarmerie. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalayan, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizé est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et des s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Tchad, au lendemain de l'investiture du président Idriss Déby Itno pour un cinquième mandat, le chef de l'opposition tchadienne Saleh Kebzabo a été entendu comme témoin par la police judiciaire dans l'affaire des militaires disparus. Le procureur l'avait déjà convoqué 2 semaines auparavant, mais ses avocats avaient contesté la procédure étant donné l'immunité parlementaire dont bénéficiait M. Kebzabo. Cette immunité a donc été levée pour les besoins de l'enquête. On écoute Saleh Kebzabo au micro de Nathalie Barge hier.
Je suis honoré d'être la première personne qui a été reçue par la police judiciaire pour inaugurer le quinquennat de Idriss Déby. Et donc voilà, je suis resté là-bas quelques temps avec eux. Ils m'ont posé toute une série de questions auxquelles j'ai répondu, d'autres auxquelles je n'ai pas répondu. Et je pense qu'ils vont faire un rapport au procureur qui appréciera certainement dans les jours qui viennent, très rapidement. Lorsqu'un homme politique fait l'objet d'interpellations de quelque genre que ce soit, il est difficile de ne pas y voir un caractère politique. Mais toujours est-il que moi je pense, comme je l'ai dit à la police judiciaire, cette affaire date de la période électorale et post-électorale immédiate. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir remuer le couteau dans la plaie ressemblerait tout au moins à une sorte de provocation politique ou tout au plus à une sorte de règlement politique, règlement de compte, bien entendu. Là, je ne suis pas témoin, je ne suis pas militaire. Il faut demander au chef suprême des armées qui est Déby lui-même, puisque Déby a dû signer un décret pour démettre le secrétaire-major de l'armée de l'air et son adjoint immédiatement après ce vote, parce qu'il était établi que à l'armée de l'air, on a voté contre Déby. Nous avons battu Déby. Donc c'est une affaire qui vient de très loin. Je souhaite beaucoup de courage, comme je l'ai dit au procureur.
Parlons du FONAC, M. Kebzabo. Je crois qu'il y a eu 3 défections. Pourriez-vous nous en parler? Pourquoi ces défections?
Il y a 3 défections. Je pense qu'il doit y avoir 23 parties qui sont restées. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura d'autres adhésions. Donc je pense que 3 défections, si c'est 23, ce n'est pas important. Il faut voir ceux qui restent, qui vont faire un grand travail dans l'entente, dans la détermination, plutôt que de voir les chevaux qui ont abandonné la course au bout de quelques tours de piste.
Mais comment vous expliquez le fait que Gali Ngote Gata ait quitté votre plateforme?
Je ne sais même pas d'ailleurs si Gali a fait défection, parce que nous a dit qu'à son retour, il y aurait un débat sur la question, mais nous l'attendons pour en discuter. En tout état de cause, nous espérons tout simplement que les autres groupements tiendront le coup pour qu'ensemble, demain, on mène une lutte implacable contre ce système que nous combattons depuis longtemps.
Et vous pensez que c'est possible que Idriss Déby puisse accepter une rencontre, un dialogue national d'égal à égal?
Le bon sens et l'amour de la patrie devraient l'y conduire. Et je crois que dans l'intérêt de son pays, s'il aime réellement le Tchad, il va s'asseoir avec les autres Tchadiens pour discuter de l'avenir de leur pays et voir ensemble qu'est-ce qu'il est bon de faire pour que notre pays ne soit pas définitivement dans le chaos.
L'opposant tchadien Saleh Kebzabo joint N'Djamena au Tchad. Campagne présidentielle aux États-Unis maintenant, avec une nouvelle controverse autour de Donald Trump, l'aspirant républicain à la Maison-Blanche. La déclaration qu'il a faite en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton de vouloir abolir le 2e amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter des armes a provoqué un véritable tollé. Jean-Roger Bion.
S'adressant à des partisans hier en Caroline du Nord, Donald Trump a laissé entendre que seuls les défenseurs du port d'armes étaient à même de stopper son adversaire démocrate, Hillary Clinton, ou les juges qu'elle pourrait nommer à la Cour suprême américaine. Cette déclaration a aussitôt provoqué un nouveau tollé. Elle a en effet été interprétée par de nombreux médias et observateurs comme un appel à user de la violence pour stopper Mme Clinton ou des juges. « Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars », a dit M. Trump. « Quoique avec le second amendement, peut-être qu'il y a une solution, je ne sais pas », a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Donald Trump a qualifié les médias de malhonnêtes, affirmant que M. Trump voulait simplement dire que le groupe très soudé des défenseurs des droits du port d'armes empêcherait Mme Clinton d'être élue en votant massivement pour Donald Trump.
Et pour terminer, les Jeux olympiques de Rio au Brésil, une 60aine de médailles seront distribuées aujourd'hui aux Jeux, notamment sur 100 mètres nage libre. Hier, l'Américain Michael Phelps a offert un spectacle extraordinaire. Il a conquis ses 24e et 25e médailles olympiques sur le 200 mètres papillon et le 4 x 200 mètres. Un exploit extraordinaire. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.